Prenons le temps peut-être de méditer les trois lectures que nous venons d'entendre, avec cette petite difficulté que peut représenter la première lecture qui est tirée du livre de l'Apocalypse et qui nous présente une vision de Jean qui utilise des symboles présents dans l'Ancien Testament. Quand Saint Jean, par exemple, nous dit « Le temple qui est dans le ciel s'ouvrit et l'arche de l'Alliance du Seigneur » apparu dans son temple. On présuppose que le temple de Jérusalem sur la terre a été fait à l'identique d'un temple qui se trouve au ciel, que l'arche d'alliance du temple de Jérusalem qui contient les tables de la loi, vous vous souvenez, est à l'identique la reproduction de l'arche d'alliance qui se trouve au ciel. Et donc Saint Jean a la vision de ce qui se trouve au ciel et du temple qui s'ouvre, de l'arche d'alliance qui s'ouvre. Et au lieu des tables de la loi, que se passe-t-il? Il voit un signe grandiose, une femme qui à la fois est dans un état de gloire puisqu'elle est revêtue du soleil, les étoiles autour de la tête, la lune sous ses pieds, et en même temps dans un état de souffrance puisqu'elle est enceinte et crie dans les douleurs de l'enfantement. Alors on a tendance à interpréter un tout petit peu vite cette femme comme étant la Vierge Marie, mais tous les biblistes qui ont étudié ce passage nous disent le symbole est un peu poupée gigogne, il enferme plusieurs significations. Et donc la femme, c'est d'abord la représentation du peuple de Dieu. Souvent le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament est représenté comme une femme, la fille de Sion par exemple. Et donc cette femme, c'est le peuple de Dieu, elle enfante son Messie. Et donc c'est Israël qui, pendant plusieurs milliers d'années, a annoncé et a enfanté celui qui devait venir, le Messie, Jésus. Et donc la femme nous est présentée comme enceinte, criant dans les douleurs de l'enfantement. Alors cette femme, c'est le peuple de Dieu, mais c'est aussi la Vierge Marie, bien sûr, à ce niveau-là, puisqu'elle est la mère, directement la mère de Jésus. Mais il y a un autre signe qui est le dragon rouge feu. Bon, n'y voyons pas comme au temps de la guerre froide, n'est-ce pas, le communisme. Mais on sait très bien que quand on nous dit qu'il a 7 têtes et 10 cornes, ça représente les 7 collines de Rome et les 10 empereurs persécuteurs de l'Église à l'époque où Saint Jean, à la fin du 1er siècle, écrit le livre de l'Apocalypse. C'est une façon codée de nous parler de Rome, qui est l'empire totalitaire, qui écrase l'homme et qui persécute l'Église. Sa queue balayait le tiers des étoiles du ciel et les précipita sur la terre. Ça, c'est pour nous parler, pour nous dire que cet empire totalitaire a quand même quelque chose de diabolique dans sa façon dont il persécute l'Église, quelque chose de connivence entre précisément les anges déchus qui ont été expulsés du ciel et qui sont sur la terre maintenant. La femme mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, façon codée de nous parler de Jésus le Messie, tenant entre ses mains un sceptre de fer. Et l'enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône, façon de nous parler de la résurrection et de l'ascension, pardon, de Jésus. Jésus est vu à la fois parce que sa mère est dans les douleurs de l'enfantement, quelque part dans les douleurs du Golgotha, et puis dans la résurrection et l'ascension. On gomme en quelque sorte les 30 années de vie cachée et publique de Jésus pour le voir simplement, voilà, dans son incarnation qui est à la fois présence et puis glorification. Et précisément, lorsque l'enfant est enlevé auprès de Dieu et de son trône, la femme s'enfuit au désert, le lieu où le peuple de Dieu chemine. Cette femme qui est le peuple de Dieu qui continue sa route, l'Église maintenant, quelque part. Eh bien, l'Église est au désert et Dieu lui a préparé une place. Alors, une voix proclame « Voici la victoire, le salut, la puissance, la royauté de notre Dieu, le pouvoir pour son Christ. » On acclame Jésus ressuscité qui a vaincu Satan, d'où précisément la chute des anges qui ne date pas du début de l'humanité, mais qui date de la victoire de Jésus ressuscité. Satan est vaincu. Tel est le sens de la première lecture qui fait allusion à la fois à des événements glorieux, célestes, et en même temps à des réalités contemporaines de Jean, mais qui se poursuivent tout au long de l'histoire de l'humanité. La persécution des chrétiens, Jean-Paul II a dit que le XXe siècle était le siècle où il y avait eu le plus de martyrs. Donc c'est dire que ce n'est pas seulement les débuts de l'Église, mais c'est aussi tout au long de l'histoire que l'Église sera persécutée, martyrisée jusqu'au bout, ou peut-être, comme Jésus d'ailleurs, elle vivra son Vendredi Saint avant qu'apparaisse Jésus glorieux. La seconde lecture nous parle directement de la résurrection de Jésus, tirée de la première lettre aux Corinthiens, en nous disant que le Christ est venu pour cela et pour vaincre la mort. Le dernier ennemi qui sera mis sous les pieds du Christ, c'est la mort. Alors quand tout sera vraiment intégré à l'intérieur de la victoire du Christ, eh bien, il remettra tout à son Père. Voilà. C'est dire que l'Assomption de Marie que nous célébrons aujourd'hui, c'est aussi un miroir de la résurrection de Jésus. D'ailleurs, ce serait intéressant de se dire qu'il y a une neuvaine entre le 6 août et le 15 août. Le 6 août, vous savez, c'est la fête de la Transfiguration de Jésus. Ce n'est pas une fête d'obligation, elle est moins connue que le 15 août. Enfin, c'est la fête de la Transfiguration du Christ, le 6 août. Et puis le 15, 9 jours après, c'est la fête de l'Assomption de Marie. Et de même qu'il y a 9 jours ou 10 jours entre l'Ascension et la Pentecôte, avec une neuvaine, c'est de là qu'on tire d'ailleurs les histoires de neuvaine. De même, il y a 9 jours aussi entre la Transfiguration de Jésus et l'Assomption de Marie, et on pourrait les vivre comme un cheminement de prière aussi. Marie est l'exact pendant, en quelque sorte, mais par grâce, elle l'a reçu de Jésus, l'exact pendant de Jésus transfiguré, de Jésus ressuscité. Son assomption est sa résurrection. Sa mort n'a été que momentanée, et dans sa mort, elle a été emmenée à la gloire du ciel et ressuscitée. Si bien que c'est pas la peine qu'on recherche des reliques de Marie, vous savez, on est un peu, nous, catholiques, obsédés par ces choses-là. Il n'y a pas de reliques de Marie, précisément. Mais au long de l'histoire, il y a quand même des gens qui ont été en manque à ce sujet. Alors, on a quand même réussi à fabriquer plusieurs tombeaux de Marie. Il y en a un à Jérusalem, il y en a un à Éphèse. Ça, c'est pour la petite histoire. Mais c'est peu important. Nous savons que Marie est dans la gloire céleste. Et précisément à cause de cela, elle apparaît dans les apparitions reconnues par l'Église, comme Lourdes par exemple. Elle apparaît dans son corps glorieux. On visualise Marie dans son corps glorieux, comme la petite Bernadette a pu le voir. Et ce n'est pas donc une sorte de contact spirit, mais c'est vraiment une apparition glorieuse. Ce n'est pas la même chose. Quant à l'Évangile, c'est celui de la visitation, et c'est curieux, Pie XII a voulu en 1950 mettre cet évangile, quand il a proclamé le dogme de l'Assomption, comme évangile de la fête. C'est pour nous dire que Marie ne cesse de visiter, au fond, comme elle l'avait fait auprès de sa cousine Élisabeth, porteuse de Jésus à cette époque-là en son sein, alors qu'elle était enceinte de lui. Eh bien, Marie aujourd'hui, rayonnant de la gloire du Christ ressuscité, ne cesse de le porter à tous. Et là, peut-être, il nous faut comprendre que la prière mariale, l'aspect marial de la vie chrétienne, n'est pas quelque chose de poussiéreux, de suranné, de dépassé, simplement pour les petites grand-mères d'autrefois, mais c'est une dimension constitutive normale de la vie chrétienne. Réciter son chapelet en méditant l'Évangile, comme on l'a fait avant la messe, c'est vraiment prendre le temps de se mettre dans le rayonnement de cette gloire de la résurrection de Jésus qui, comme le font nos radiateurs à gaz, n'est-ce pas, quand ils chauffent, Marie rayonne la gloire du Christ ressuscité à travers sa présence glorieuse dans la gloire de son assomption. Elle rayonne Jésus ressuscité sur nous. Et prendre le temps de réciter son chapelet ou le réciter intérieurement au long de sa journée de travail, c'est permettre ce rayonnement marial de nous mettre dans l'axe de la résurrection de Jésus. C'est important. C'est important de réciter son chapelet. Et en plus, tous ceux qui vivent un combat spirituel fort savent très bien que Marie, quelque part, les grands mystiques et les grands saints l'ont dit, est la terreur des démons. On nous représente toujours Marie, les pieds écrasant la tête du serpent. Voilà. Et c'est important, c'est à expérimenter. Quelqu'un qui est aux prises avec des difficultés graves, avec des addictions, avec des péchés à répétition, que sais-je, eh bien, grâce à la présence mariale, par la prière mariale, il se passera quelque chose de fort pour une libération. Voilà, nous célébrons Marie. Bonne fête à toutes celles qui s'appellent Marie aujourd'hui et qui sont parmi nous ou ailleurs, n'est-ce pas ? C'est leur fête. Et merci à la Vierge Marie de nous aider à suivre Jésus au jour le jour.